Slime, émission 3, Rideau. C'est une des grosses sorties au cinéma de cette fin d'année 2024. Mercredi dernier, le film Wicked est sorti, réalisé par John Chu avec dans les rôles principaux Ariana Grande et Cynthia Erivo. Au théâtre, c'est peut-être la comédie musicale moderne la plus classique qui cartonne à Broadway et autour du monde depuis 21 ans. Une réadaptation de l'histoire de la sorcière dans Le Magicien d'Oz. C'est la dernière comédie musicale en date qui bénéficie de ce traitement sur grand écran, ce qui est peut-être la manière ultime de réadapter une œuvre pour la faire découvrir à un public qui ne connaît pas forcément l'œuvre originale. Des films adaptés de comédies musicales à succès, il y en a eu des dizaines. Des bons films adaptés de comédies musicales à succès, il y en a eu moins. Des réadaptations de comédies musicales, il y en a eu, et même directement sur scène, où plusieurs mises en scène différentes existent pour des mêmes spectacles. Et souvent, plus un spectacle est vieux, plus il y a eu de versions différentes, avec plus ou moins de pertinence et des succès plus ou moins forts. Des classiques qui redéfinissent le genre au... Ouais, je préférais la version de Londres jouée en 1987. On vous parle de tout ça dans cette troisième émission de Slime.
Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Slime, l'émission qui a gardé la même mise en scène depuis sa première en septembre 2024. Je suis Gauthier. Et je suis bien confortablement installé en hauteur, un petit peu décalé par rapport à la scène. Il faut se pencher pour voir parfois, mais franchement, pour le prix qu'on a payé, ça va. Avec, pour m'accompagner ce soir, Ange.
Bonjour.
Dans mon fauteuil à ma gauche. Salut Ange. Quel est ton angle d'approche pour le sujet du mois ?
Je vais vous parler d'art essentiellement. On va bien s'amuser.
Oh. Et dans le fauteuil à ma droite, qui est-ce qu'il y a ? C'est Élise. Bonsoir Élise.
Salut.
Comment vas-tu ?
Bah ça va super, et toi Gauthier ?
Bah ça va, et toi, ton angle d'approche ?
Et bah moi je vais vous parler de certains codes de la comédie musicale et de genres qui ont... Ouais, qui ont pas mal influencé tout ça, voilà.
Et bah on a hâte d'écouter tout ça. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et où toutes les places ont un tarif unique, c'est parti. Avant de commencer, une petite présentation des termes et de mise. Qu'est-ce que vous, mes collègues, vous associez au mot classique ?
Ah. Vas-y, je t'en prie.
Ok, oh merci. Moi je pense que c'est un peu les trucs, tu sais, il n'y a pas vraiment de mouvement classique comme dans la musique classique, tu vois, c'est un peu les trucs légendaires, je dirais.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un peu, comment dire, ce qui a marqué une époque et ce qu'on peut regarder 20 ans plus tard avec le même sourire qu'à l'époque.
Ok, moi c'est vrai que moi ce que j'associe beaucoup au mot classique, c'est aussi le mot vieux. Parce que c'est souvent considéré comme des chefs-d'œuvre absolus qu'il faut absolument connaître. Si on prend le cinéma, on peut citer Psychose, par exemple, Rocky, ou alors Bienvenue chez les Ch'tis. Pour les comédies musicales, ouais. Le truc qui vient spontanément, je pense, c'est West Side Story, dont d'ailleurs l'adaptation en film est également considérée comme un classique du cinéma. Et d'ailleurs, petit fait amusant me concernant, ce fut mon tout premier contact avec le concept de comédie musicale, en excluant les Disney. Et sachez qu'à l'époque, je détestais, car ma classe de 5e avait été choisie pour mettre en scène America, lors du spectacle de fin d'année. Sachant que c'est une chanson où des immigrés portoricains se moquent du rêve américain, disons que notre classe bien blanche du fin fond de la Bretagne, nous n'étions pas forcément les personnes les plus... qualifié pour faire ça. Mais une des raisons pour laquelle certaines œuvres ont survécu au passage du temps, c'est également parce que celles-ci ont révolutionné quelque chose, ont bougé des codes et ont créé de nouveaux codes. Alors West Side Story, c'en est un exemple, dans le sens où West Side Story, ça a apporté des nouvelles choses à Broadway, comme de nouvelles représentations, de nouvelles sonorités. En effet, West Side Story, c'est en gros l'histoire de Roméo et Juliette, une histoire d'amour interdite entre deux personnes appartenant à deux clans différents. Ici, deux gangs de New York, des blancs new-yorkais qui se battent avec des immigrés portoricains. Alors évidemment qu'il va y avoir des instruments typiques d'Amérique latine et également, heureusement, des actrices latino et des acteurs latino et plus spécifiquement portoricaines. Beaucoup plus proche de nous, une comédie musicale qui est, je trouve, le classique des classiques de la comédie musicale moderne, c'est bien sûr Wicked. Wicked, qui est d'ailleurs sorti mercredi au cinéma, qui raconte l'histoire de la sorcière dans Le Magicien d'Oz. Et pour être honnête, tellement classique que quand je l'ai vue à Londres cet été, elle m'a laissé un goût de vieux, un goût de poussiéreux, de... Alors oui, c'est super beau, hein, les chorés sont top, mais je sais pas, j'avais l'impression de voir une histoire, mais des techniciens présenter une mécanique bien huilée, sans vraiment de personnalité. Mais après, c'était peut-être aussi à cause de l'aura que Wicked a accumulée depuis qu'elle a ouvert à Broadway en 2003, qui a joué sur mes attentes et qui m'a finalement un peu déçu. J'attends d'ailleurs beaucoup du film. Et enfin, la comédie musicale qui a tout cassé, qui a influencé une énorme partie des comédies musicales modernes et de ce qu'on peut voir aujourd'hui encore, en introduisant un style de musique inhabituel à Broadway qui met en avant sur scène des actrices noires et latinos, alors que celle-ci n'était pas autant mise en avant auparavant et qui a dans sa mise en scène plusieurs cercles qui tournent, c'est bien évidemment... Alexander Hamilton. Et oui, c'est Hamilton de Lin-Manuel Miranda qui a commencé en 2015 et qui... on a compris, oui. Et qui cartonne depuis bientôt 10 ans. Ici, on a du rap du... Bon, c'est bon, je pense qu'on a compris. Il n'y a pas la peine de répéter 3 fois. Qui met en avant du coup du rap, du hip-hop pour raconter l'histoire de la révolution américaine. Et dans Hamilton, il y a beaucoup cette même volonté de mettre en avant des actrices, des acteurs issus de communautés pas forcément bien représentées au théâtre jusqu'ici et d'envoyer justement un message en faisant jouer des personnages historiques du début des États-Unis par des Noirs, par des Latinos, etc. La phrase assumée par Lin-Manuel Miranda étant « America then as told by America now », l'Amérique de l'époque racontée par celle d'aujourd'hui. Et en réalité, Hamilton, c'est tellement bien fait qu'on oublie très vite qu'à la base, l'intégralité des personnages, des protagonistes à l'époque, bah, ils étaient blancs. Et c'est aussi une amélioration par rapport à West Side Story parce que bien que dans la pièce originale, les personnages portoricains étaient majoritairement joués par des portoricains, ce n'était pas du tout le cas du film de 1961 où des acteurs blancs se sont grimés pour représenter des personnages portoricains. Ce qui est bah, ultra raciste, évidemment. Et même par rapport au rap, suite au succès de Hamilton, étrangement, on retrouve dans beaucoup de pièces qui sont sorties les années suivantes des personnages qui se mettent à parler d'une manière un peu plus rapide qu'à l'accoutumée et avec un rythme différent que quand il s'agit de chansons, ce qui est une coïncidence étrange, vous en conviendrez.
Étonnant.
Enfin bref, moi justement, je vais vous parler de classiques. Élise, toi, tu vas nous parler des choses récurrentes qu'on peut trouver dans ces classiques.
Exactement, tout à fait, mon cher Gauthier. Alors, je parle à mes chers auditeurs bien-aimés de She Slime. Si parmi vous, nous comptons des néophytes de la comédie musicale, je pense que vous tombez pile sur la bonne émission. Je suis très contente qu'on aborde un peu les classiques parce que ça nous permet de reposer un peu les bases. Dans les émissions précédentes, on a parlé de pas mal d'œuvres qui suivaient les codes ou bien qui les cassaient, mais on n'avait pas encore pris le temps de poser tout ça à plat. Alors là, je vais parler des standards en termes de construction, vous allez vite comprendre, plutôt que concernant l'industrie ou la composition en soi. Ce sur quoi j'aimerais faire le point avec vous, c'est les numéros de base d'une comédie musicale. Vous le savez sûrement, en général, une comédie musicale, c'est une alternance de scènes jouées et de scènes chantées. Les scènes chantées étant les moments clés, les choses tellement importantes que parler ne suffit plus, on doit les chanter. Les instants qui font avancer l'histoire. Et ces chansons, elles se classent en catégories. Mes chers collègues de chez Slime, professionnels que vous êtes, on va jouer un peu ensemble. Bienvenue dans le quiz de Élise. Je vais exposer des types de numéros de comédie musicale et vous allez essayer d'en trouver un qui correspond pour voir si vous avez bien compris ce que je vous raconte. Alors si vous nous écoutez, n'hésitez pas à chercher aussi parce que je suis sûre que vous pourrez en trouver sans souci. J'autorise les Disney pour cette fois, c'est vraiment parce que je vous aime et qu'en vérité, ils ont tout pompé à Broadway, donc bon bah ça fonctionne bien quoi. Ok, premier numéro, la classique. La I Want Song, la chanson « Je désire, je souhaite, je veux ». Souvent chantée par le protagoniste vers le début de l'histoire, on y voit ses rêves, sa situation actuelle qu'il ou elle aimerait faire évoluer, et ce vers quoi il aspire. Une petite idée, mes chers amis ?
Je voudrais un bonhomme de neige.
Ça peut, oui, c'est vrai, c'est très « I want », je veux un bonhomme de neige.
Moi, pour reprendre Hamilton, bien sûr, « Wait for it ».
Wait for it, ça rentre complètement dedans. Il y a complètement ce truc-là de... Je suis assez d'accord, même dans La Reine des Neiges, il y a aussi le renouveau.
Oui, bien sûr.
Qui, est complètement, ah oui, qui rentre complètement dans cette catégorie-là. Celle qui est la plus citée, c'est Partir là-bas, de La Petite Sirène, tout simplement. Exposition, je suis une sirène, je veux devenir humaine. C'est vraiment tout droit, pareil. Et c'est le début de la quête d'Ariel. Moi, dans cette catégorie, j'aime beaucoup Corner of the Sky de Pippin. C'est la deuxième chanson du spectacle. Et c'est comme ça qu'on saisit directement vers quoi on va et sur quoi le personnage aspire. Trouver son coin de ciel, s'accomplir, trouver un but dans la vie. Voilà, c'est très simple. Hein. La I Want Song, ça va tout droit, ça file. Le deuxième chanson du la deuxième catégorie de chansons, c'est la I Am Song, la chanson Je suis. Celle-ci, c'est la chanson qui expose la personnalité d'un personnage. Voilà qui je suis. Souvent, les méchants ont ce type de chanson, par exemple. Et c'est quasiment toujours un peu plus fun qu'une I Want Song. Alors,
Mythe de Plastics.
Mythe de plastique.
Yes.
Complètement.
My Shot de Hamilton.
Il a vraiment. Alors My Shot, ça peut aussi être une I Want Song, mais les deux peuvent se croiser. Hein. Il y a pas de.
C'est les deux faces d'une même pièce.
Exactement, c'est vrai. Moi, je pense par exemple à une I Am Song un peu joyeuse. C'est When You Are Good to Mama de Chicago. Je suis mama. Donne-moi ton argent. Je vais t'aider. Pareil. Tout droit. En fait, c'est des trucs vraiment. Soit c'est je veux, soit c'est voici qui je suis. Je pense aussi à un exemple qui me plaît bien, c'est Candy Store de Heathers, qui dresse immédiatement le portrait des méchantes lycéennes que tout le monde craint et le pouvoir qu'elles détiennent, ainsi que même leur personnalité individuelle. C'est une triple I Am Song, quand même. Ça, c'est pas mal. Alors, la I Want Song et la I Am Song, c'est les deux catégories principales. Hein. On pourrait limite classer toutes les chansons de la comédie musicale dans cette catégorie. Mais pour votre grand plaisir, on va rentrer dans des trucs un peu plus spécifiques. La I Am Becoming Song, je deviens. Souvent, c'est le numéro 1 de l'acte 1, le dernier, un gros climax où le personnage principal réalise des choses et change. Un truc un peu grandiose pour que le spectateur soit bien cloué à son siège. Bon là, on a So Much Better où Elle Woods en profite pour faire la note la plus improbable. C'est inchantable, respire. Est-ce que vous avez des petites idées?
Wait For Me?
Ouais, Wait For Me, je pense que ça peut carrément rentrer dedans.
Je suis en train de réfléchir à une rêve d'Hamilton encore.
C'est insupportable. C'est le personnage qui chante en vrai, je pense que peut-être...
Hurricane.
The Room Where It Happens.
Ah oui, exactement, tout à fait.
Ah ouais, carrément.
Genre c'est vraiment, en plus, c'est souvent genre fin d'acte en mode... Le point sur la table. Voilà. Et surtout, si on peut en profiter pour ne pas respirer à la fin, pour lancer une belle grande note, bien, c'est
évidemment.
Super. Et notre dernière catégorie, le 11 o'clock number. Le numéro de 11h du soir, un public fatigué, une histoire qui touche à sa fin et une grosse explosion pour réveiller tout ça et amener à la fin en beauté. C'est pas un numéro obligatoire, mais c'est quand même assez classique. Et il peut même être calme, mais il faut juste que ce soit un truc qui accroche.
World Burn?
World Burn, ça peut bien le faire, World Burn, j'avais pas pensé.
Ça peut être assimilé au Showstopper aussi.
Le showstopper, non. Ça va plutôt être la I Am Becoming, le film
d'acte
1,
oui, okay,
tu vois,
ouais,
ça
je
rentre
vois.
Dans le showstopper.
Le truc qui te donne envie de rester après l'entracte.
Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est vraiment la petite explosion, par exemple, si je vous dis Waitress.
Ah.
Qu'est-ce que ça pourrait être dans Waitress? La musique de Waitress, vers la fin, qui rend fou.
La musique de Waitress qui rend fou vers la fin, She Used to Be Mine.
She Used to Be Mine.
Tout simplement.
Où tu es cloué à ton siège. Et pourtant, c'est plutôt tranquille, ouais. Mais tu es cloué à ton siège à la fin. Moi, mon petit favori, c'est évidemment Cabaret de Cabaret. Si ça, c'est pas un 11 o'clock number, je me roule par terre. Bon, je vais pas trop vous en dire sur l'histoire. Je vous laisserai le bonheur de l'écouter sous peu. Mais c'est quelque chose. Bon, je pense qu'on a traversé les grandes lignes. Bon, après, forcément, on a le duo d'amoureux, le numéro de claquette ou les gros ensembles avec tout le monde sur scène. Mais si je continue, on n'est pas couché. Merci encore d'avoir participé au super quiz d'Élise. En tout cas, la prochaine fois qu'une comédie musicale croisera votre route, je compte sur vous pour classer les chansons dans les catégories dont je vous ai parlé, en pensant fort à moi et à ces connaissances parfaitement dispensables, mais malgré tout intéressantes que je vous ai partagées aujourd'hui.
Eh ben, merci beaucoup, Élise, pour faire suite à toutes ces présentations de catégories que tu nous as données. On va écouter justement la chanson Cabaret qui vient de...
Cabaret, quelle surprise.
La chanson éponyme, on peut dire ce terme.
Exactement.
Eh ben, on écoute tout ça sur Radio Campus Paris.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie.
with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
C'était Cabaret, issu de la comédie musicale Cabaret.
Slime, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Et Ange, tout de suite, ça va être à toi.
À moi ?
Je crois que ça va être à toi,
tu
il
es
me
sûr
semble.
De
ah,
toi
excuse-moi, Élise.
Tu es sûr
non,
de
non,
toi
je suis tout à fait pas sûr de moi. En fait, c'est à Élise, bien sûr.
Ils font les femmes en direct. C'est terrible, messieurs, dames.
Non, c'est Élise. Élise, tu reprends la parole. Et tu ne t'arrêtes jamais.
Je ne m'arrête jamais de parler. Si on me laisse parler, bien sûr, les amis. Vu qu'on est sur les classiques, moi, je voulais vous parler d'un genre de comédie musicale qui en a vu naître des tonnes de classiques. Entre Cats, Wicked et Les Misérables, je vous parle ici du Mega Musical. Alors, le Mega Musical, c'est né dans les années 80 à peu près, et ça a été une grande claque dans la tronche. Pourquoi, me demandez-vous ? Eh bien, c'est très simple. Pour vous expliquer un peu l'idée, un Mega Musical, c'est l'équivalent d'un blockbuster, une comédie musicale de très grande envergure. L'histoire est souvent située dans une époque un peu loin de la nôtre et évoque des questions vagues et universelles de justice sociale pour faire semblant qu'on parle d'un truc, le tout en se prenant atrocement au sérieux. Mais en vérité, le focus principal d'un méga musical, c'est le visuel. Des effets spéciaux, des costumes de dingue, des décors assommants, un ensemble avec beaucoup trop de monde et des technologies de pointe sur scène. Tout ça se poudrait d'un peu de mélodrame et accompagné par des gros orchestres et des voix impressionnantes. Bon, globalement, le tout pue le fric. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'injecter une quantité astronomique d'argent et espérer en récupérer une quantité tout aussi titanesque. Un exemple que je trouve très parlant, c'est Miss Saigon, signé Boubil Eschenberg en 89. Alors, globalement, ça parle. Ça essaye en tout cas de parler de la guerre du Vietnam, où un soldat américain et une vietnamienne tombent amoureux. Alors, je vous raconte vaguement, et globalement, elle tombe enceinte. Mais la ville de Saigon tombe aux mains des méchants communistes. Et bah, du coup, le soldat, il part et il peut pas l'emmener avec elle. Et puis, elle accouche toute seule et c'est terrible. Et puis, au final, il se retrouve plus tard, mais c'est le bordel. Orage au désespoir. Blablabla, bla, bla, tragédie, blablabla, bla, bla, tout le monde pleure, blablabla, bla, 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 tout le monde meurt. Oh, sniff, 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 mon amour, mon fils. Ah. Mais vous savez quoi ? Et bah, à un moment, il y a un hélicoptère sur scène. Hélicoptère. Bon, voilà, j'avoue, je suis mauvaise langue. Vous avez peut-être remarqué que c'est pas nécessairement le genre d'œuvre qui me touche. Peut-être suis-je donc devenue trop aigrie ou trop woke. Mais franchement, on s'emmerde un peu, je trouve. Après, je comprends complètement qu'on puisse apprécier, hein, parce que malgré tout, on s'en prend plein la vue. Et plein les oreilles aussi, avec des ballades bien puissantes. Par exemple, celle dans Miss Saigon, I Give My Life For You. But it's just moonlight on my bed. Was he a ghost? Was he alive? Ah bah attendez, attendez, j'en ai une autre. Alors c'est la même, juste dans un autre spectacle. Encore une, allez, c'est parti, on continue. C'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas une once de différence. Mais ces chansons, quoi qu'on en dise, c'est des incontournables. Et moi-même, j'avoue que je les chante avec plaisir. Et si je me moque, c'est probablement que je suis juste une haineuse et une grosse jalouse parce que moi, j'ai pas d'hélicoptère. Mais malgré tout, on reste beaucoup en surface et on manque cruellement de dérision dans ce genre d'histoire, à mon sens. Et je comprends pas les messages qu'on veut me faire passer avec ces trucs-là. D'ailleurs, j'y pense, un autre qui est marrant avec les méga musicals, c'est qu'on voit souvent les mêmes noms revenir. Par exemple, on retrouve quasi toujours le producteur Cameron McIntosh dans les crédits, parce qu'il possède tout et visiblement adore dépenser sa thune dans des hélicoptères. Oui, j'ai un problème avec cet hélicoptère. Le mec possède tellement de gros shows qui tournent depuis des années que ça devient indécent. C'est même lui qui tient Hamilton. Je suis désolée de te l'annoncer, Gauthier.
Mais je suis au courant, hélas.
Je suis désolée.
C'est le nom qui est affiché quand tu prends ta place, qui t'envoie par mail. CameronMcIntosh@quelquechose.com.
Oh, la catastrophe. Bon, on a aussi évoqué Bobby Leschenberg, qui ont signé Les Misérables et Miss Saigon, mais moi je vais vous parler un peu d'Andrew Lloyd Webber, une figure majeure de la comédie musicale, puisqu'il est encore actif aujourd'hui, mais sans bien et sans mal, on verra. Il est selon moi la figure principale du méga musical, puisqu'il est notamment derrière Cats, Le Fantôme de l'Opéra ou encore Sunset Boulevard. Alors je vais être honnête, c'est pas quelqu'un dont j'admire le travail particulièrement. Pour toutes les raisons évoquées plus haut concernant le méga musical, cette poursuite constante du grandiose en se basant sur des histoires avec un manque de fond, des messages bancals, un effort constant pour vraiment essayer désespérément de t'arracher une larme, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de poudre aux yeux. C'est pour ça que je vais me faire un plaisir immense de vous parler brièvement de Bad Cinderella, sa dernière création à avoir vu le soleil en 2021, et peut-être à ce jour son plus grand four. Notre cher monsieur a eu envie de se renouveler, figurez-vous, et de raconter quelque chose. Voilà. Alors, l'idée de base, c'était de faire une réécriture de Cendrillon, semi-médiévale, semi-moderne, on sait pas trop, c'est assez flou, pour essayer de parler de la différence et des standards inatteignables imposés aux femmes qu'il est grand temps d'enterrer. Mais, semblerait-il que se réveiller un matin et décider d'être féministe soudainement, c'est pas donné à tout le monde. Surtout quand on est un homme blanc de 75 ans. Voilà. On se retrouve avec un spectacle plus que maladroit, un personnage principal assez insupportable parce qu'elle fait que répéter qu'elle est tellement différente des autres et que personne ne la comprend. Personnage qui est décrit comme l'ensemble, comme laide, méchante, indésirable. Bon, pourtant interprétée par Carrie Fletcher, qui est une femme, ma foi, très jolie, qui se trouve simplement être un peu en surpoids, et avec un costume un poil émo. Ok.
Laide, méchante et indésirable.
Et en soi, peut-être qu'on peut essayer de dénoncer ces critères, hein. ça peut marcher, mais c'est vraiment pas réussi. Parce que là, au final, on essaye de dire que c'est la différence qui est belle. Mais pour ça, on en profite pour cracher sur les filles comme les autres, qui sont évidemment forcément superficielles parce qu'elles mettent du maquillage. Ok mec, le passage chez la bonne fée, en fait c'est de la chirurgie esthétique. Ok mec. Et au final, évidemment Cendrillon comprend qu'elle est belle comme elle est, qu'elle a pas besoin de changer, grâce à son prince charmant, car mesdames, vous êtes toutes belles à votre manière, mais seulement si un homme est là pour vous le dire. Ok. Alors, malgré les quelques chansons un peu sympathiques et mon adoré Carrie Fletcher, ça a évidemment été un énorme flop, voilà. Si bien que quelques semaines à peine après avoir commencé à jouer au West End, le spectacle ferme. Et d'ailleurs, les acteurs l'ont appris en même temps que Le Monde, sur Twitter. Wow, super. Mais bon, le show a été annoncé à Broadway, quelle bonne décision. Et cette fois, c'est encore pire, parce que la fille qui joue Cendrillon, c'est vraiment juste une femme mince, conventionnellement très belle, et habillée parfaitement normalement. Super. Andrew, c'est quoi le message? Je comprends pas ce que t'essayes de me dire. Bon, évidemment, ça a été un raté immense aussi. Chais. Comme quoi, oui, c'est important de raconter des histoires qui dénoncent des choses et qui mettent en lumière des problèmes systémiques absurdes. Mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde. En tout cas, messieurs, dames, de mon côté, moi, je souris doucement en repensant à tout ça. Je vous invite à réfléchir au message de vos pièces avant de les écrire. Et également, j'espère que vous aurez apprécié, évidemment, ma totale impartialité aujourd'hui.
Merci beaucoup, Élise, pour ce torrent de haine.
Plaisir.
Slime. Un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, cette fois, c'est la bonne. On passe à Ange.
Si vous allez faire un tour dans votre bibliothèque de quartier, vous verrez toutes sortes de livres sur les étagères.
Certains seront encore tout neufs, d'autres si anciens que vous pourrez sentir en parcourant leurs pages cette odeur si spécifique que prend le papier au bout d'un certain temps. Vous voyez de quoi je parle. Vous trouverez des ouvrages recouverts de poussière, abandonnés dans un coin, et d'autres dont les écrits auront presque été effacés par leurs années de bons et loyaux services. L'art, c'est quelque chose de vivant, qui va naître dans un certain contexte et évoluer dans son temps, pour la simple raison que derrière chaque œuvre, il y a un, une ou plusieurs artistes. Et par conséquent, derrière chaque œuvre, il y a des idées. Et si certaines idées sont immuables, d'autres peuvent changer complètement au fil des époques, voire même devenir totalement obsolètes. La comédie musicale est un croisement entre plusieurs formes d'art, que ce soit la musique, la danse ou bien le théâtre. Je ne m'aventurerai pas à vous faire une dissertation sur ce qui caractérise ou non une œuvre d'art, car on pourrait réellement y passer des heures, tant c'est abstrait et personnel. Donc je me contenterai de reprendre ce que j'ai dit un peu plus tôt. La comédie musicale, c'est de l'art. On est d'accord. Et à ce titre, les artistes y véhiculent des idées. Parfois, ce sont des messages politiques forts et engagés. Parfois, ce sont de longues explications sur le pouvoir de l'amitié. Mais vous en conviendrez, ça reste des idées. Alors effectivement, certaines idées peuvent prendre un sacré coup de vieux. Prenons un exemple. Ce sera sans doute un peu plus parlant. Grise, ça vous dit quelque chose ? Je rigole ! Je rigole, évidemment, que ça vous dit quelque chose. C'est sans doute la comédie musicale que vos parents vous ont fait voir pour que vous découvriez la comédie musicale. Non ? Non, seulement moi ?
Moi peut-être les parents de mes parents.
Bah merci pour tout, maman. Les critiques sont généralement assez unanimes. Quand on parle de Grise, le spectacle a été élu meilleure comédie musicale de tous les temps par Channel 4 en 2004.
Ouais.
Il y a 20 ans certes, mais c'est tout de même quelque chose. Et si vous regardez les avis des gens sur Allociné ou autres sites de cinéphiles, vous verrez une sorte de consensus qui dit que c'est kitsch et intemporel. C'est un peu ça l'esprit Grise. Un scénario sucré et naïf, très feel good avec des chansons entraînantes et des numéros d'ensemble exubérants. Le genre de film que l'on peut regarder ado ou adulte, en famille ou en soirée pyjama. Et ne vous méprenez pas, hein, j'adore Grise. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout par nostalgie. Car si je dois être tout à fait honnête, j'aurais tendance à trouver ça un peu ringard, un peu trop mielleux, un peu trop daté. Il y a certaines choses que malheureusement, je n'arrive pas à ne pas voir dans cette comédie musicale, surtout en ce qui concerne la place des femmes et le regard qui leur est porté. En gros, c'est quand même plutôt pas mal misogyne. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu trop souvent à mon goût dans beaucoup de comédies musicales dites cultes. On n'est plus vraiment dans les années 70 et je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus critique à ce sujet. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment une grande amatrice de classiques de comédie musicale. J'exècre le fantôme de l'opéra et après à peu près tout ce qui se rapporte à Andrew Lloyd Webber. Croyez bien que j'en suis désolée, n'est-ce pas Élise ?
Pas moi.
Je n'aime pas le Roi Lion. La plupart des succès français ont tendance à m'ennuyer. Je ne suis pas une hater, hein, je suis juste très 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 difficile avec ce que j'aime. Je trouve que d'une manière générale, il n'y a pas tant de spectacles qui parviennent à se renouveler et à moderniser le genre. Je ne parle pas d'une révolution artistique en tant que telle, mais simplement du fait d'aller au-delà de ce que l'on connaît déjà. Ça passe par le scénario, mais aussi par la mise en scène, par la réalisation globale. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, avec les films musicaux adaptés des succès de Broadway. Pour ne citer que, on a eu Into the Woods en 2015, Cats en 2019, Mean Girls en janvier 2024, et sorti en France il y a tout juste deux jours, messieurs, dames, Wicked. Je ne l'ai pas encore vu, en réalité, donc je n'en parlerai pas ici. Mais pour ce qui est des autres, les résultats n'ont pas vraiment été ceux escomptés. Globalement, l'avis du public est qu'il vaut mieux aller voir la comédie musicale de base à la place. Et c'est vrai, on s'ennuie devant les adaptations. J'ai l'impression qu'à chaque fois, l'idée derrière la réalisation, c'est de rendre un spectacle de Broadway grand public. Sauf que c'est impossible, ou en tout cas très compliqué. Les fans de comédie musicale, c'est une niche. Et en fait, je crois que la plupart des gens préfèrent être prévenus quand ils vont voir une comédie musicale et pas le découvrir d'un coup parce qu'un personnage se met à chanter au milieu de sa phrase. Du coup, visiblement, cette tentative de lissage des spectacles justifie le fait de produire des films moyens à l'appel. Je vous le dis, Mean Girls est ma comédie musicale préférée. Mais je préfère largement regarder le film Grise que le film musical Mean Girls. Et pourtant, il n'y a pas René Rapp dans Grise. Il y a toujours des exceptions, comme par exemple La La Land, succès international, oscarisé. Ou bien encore La Couleur Pourpre. La Couleur Pourpre. Merci. Adaptation de la comédie musicale éponyme que je vous recommande vivement de voir si ce n'est pas déjà fait. Tous deux ont été pensés comme des films à part entière et pas comme cet entre-deux de « Regardez les fans, c'est votre spectacle là !» et « Regardez, c'est un film tout à fait normal qu'on vous propose !» En tout cas, j'espère que ce sera également le cas de Wicked. Je pérégrine un peu dans ce sujet depuis tout à l'heure car récemment, avec Élise ici présente, nous sommes allés voir Hello Dolly au Lido 2, dont le texte n'avait pas été touché depuis sa création il y a 60 ans. Un spectacle époustouflant dans sa technique, que ce soit en termes de chant, de musique, de chorégraphie ou même de costume. Une troupe parfaite en tout point, des comédiens absolument fantastiques. Mais un texte qui a beaucoup vieilli et qui, aujourd'hui, sonne parfois très faux, notamment... Et j'y reviens encore par rapport à la place de la femme dans la société. Écoutez bien. Voilà. Est-ce que selon vous, il vaut mieux jouer et rejouer les pièces le plus fidèlement possible à l'original pour les préserver dans la mémoire des gens? Ou bien vaut-il mieux les adapter pour ne plus véhiculer les stéréotypes archaïques quand ce n'est pas tout simplement nocif, sexiste, raciste, homophobe, le monde chaleureux des années 70 quoi? Je vous pose la question mes amis.
Je pense que c'est une question un peu compliquée parce que c'est vrai que moi je connaissais pas Hello Dolly quand on allait le voir, c'était une découverte d'un coup toi aussi.
Oui.
Et t'arrives trois chansons dans le truc et puis d'un coup on te dit oui il faut une femme pour récurer l'évier. Pardon monsieur. Et en même temps ne pas les jouer ça veut dire aussi perdre un morceau de patrimoine, c'est un peu à double tranchant. Est-ce que ça vaut le coup de les jouer, mais en même temps, est-ce que ça, c'est pas triste de plus les jouer? Je sais pas. Ouais,
c'est une question qui a beaucoup de points positifs et de points négatifs.
Je pense qu'une manière de faire ça, ce serait d'avoir peut-être même un pourquoi pas les jouer, mais avoir un message de prévention au début et de dire attention quand même. Comme ça a été fait par pas mal d'autres œuvres. Qui sont devenus problématiques aujourd'hui, de dire oui, bah, ça reflète la pensée d'une époque, mais aujourd'hui c'est plus ok ça. Et j'ai l'impression que pour Hello Dolly, c'était pas le cas du coup.
Non, il y a plein de gens en plus, apparemment, bah, les critiques sont vraiment. C'est hyper positif, et c'est vrai que le spectacle est hyper beau, le Lido c'est une salle magnifique. Et c'était très très joli. Il y avait
un spectacle grandiose.
Ouais, c'est ça, c'était grandiose, mais en même temps, là, qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Et puis en même temps, c'était chouette. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, hein, mais c'est assez.
Ça pose
tranchant.
Des questions. Ouais. Ça pose des questions. Je pense. Moi, personnellement, je suis plutôt. Je me dis que parfois, il vaut mieux adapter. Honnêtement, je suis plutôt dans cette catégorie de personnes. Je comprends cette idée de préserver certaines choses, mais je pense que. Il y a certains stéréotypes qu'il vaut mieux ne pas préserver, en fait.
Ou alors avoir une manière de... On dit, bah, on filme le spectacle, on ne fait plus cette version, on l'adapte, on le modernise. Et si vous voulez voir comment c'était avant, regardez, il y a une vidéo.
Je suis assez d'accord avec ça.
Ouais, mais du coup, je me pose la question de, par exemple, si on fait ça sur Hello Dolly et qu'on change le truc, est-ce qu'au final, on change tout le spectacle, en fait, dans Hello Dolly?
Oui, c'est vrai.
Donc, est-ce qu'au final, ça vaut le coup même de juste jouer une nouvelle version et juste on n'enterre pas Hello Dolly à un moment? Je sais pas, c'est... Mais en même temps, c'était un beau spectacle et les gens ont adoré. Par exemple, quand j'ai dit à ma mère qu'on allait voir Hello Dolly, qui est ma mère qui est parfaitement féministe, elle était en mode « Ah, c'est super Hello Dolly !» Je me demande si la nostalgie, ça nous fait pas un peu fermer les yeux des fois.
Oui, je pense. Et j'aimerais bien, moi je suis d'avis qu'il faut pas forcément fermer les yeux et rester conscient de pas mal de choses. Mais je comprends aussi que des gens veuillent juste aller au spectacle et décrocher tout simplement, arrêter le cerveau et juste profiter d'un beau spectacle. Voilà.
Ben on aura le temps de réfléchir à ça pendant la musique. Qu'est-ce qu'on écoute, Ange ?
On écoute Hell No de La Couleur Pourpre. J'espère que vous allez apprécier.
All my life, I've had to fight. I had to fight my daddy, had to fight my brothers, my cousins, my uncles too. But I never, 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 never thought I'd have to fight. In my own house. I feel sorry for you, to tell you the truth. You remind me of my mama under your husband's thumb. No, you under your husband's foot. What he say go? Why you so scared? I never know. But if a man raise his hand, hell no.
Hell, hell, hell no. safe in a family of means. Ooh, sick and tired how a woman still live like a slave. You better learn how to fight back while you still alive. You show them girls and beat back that jive. 'Cause when a man just don't.
C'était Hell No de La Couleur Pourpre, ça swing comme on dit chez les personnes d'un certain âge.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite ça va encore être à moi. Donc on parle de comédie musicale classique depuis le début de cette émission. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment on assiste à une période avec beaucoup de remises en scène de comédies musicales qui sont plus ou moins vieilles ?
Absolument.
C'est vrai, beaucoup de revival.
C'est vrai, de revival, c'est le terme adéquat. En France, par exemple, on a eu récemment Starmania, qui s'est rejoué, et qui est pour moi la plus grosse comédie musicale française. En tout cas, c'est celle dont on pense en premier quand on pense à comédie musicale française. Et pour y avoir été deux fois, c'est franchement super bien, c'est super impressionnant. Il y a ce truc que j'aime ressentir quand je vais voir une comédie musicale, l'impression de se faire tabasser par ce qui se passe sur scène et d'en rester bouche bée. Starmania, c'est d'ailleurs une pièce pour qui les différentes mises en scène font partie intégrante de son histoire, parce que depuis 1979, 45 ans que le spectacle existe, quasiment à chaque fois que ça a été joué, la mise en scène a changé. Des chansons ont disparu, puis sont réapparues, carrément des personnages ont été supprimés pour revenir, mais en fait pas dans la version d'après. Puis finalement si, en fait, ce qui fait qu'il n'existe pas un seul Starmania, mais une multitude. Et c'est assez intéressant, mais pose une question. Comment fait-on pour comparer ? Est-ce qu'on doit considérer la version la plus récente comme la vraie version ? Y en a-t-il seulement une de vraie version ? Après, c'est justement le fondement du théâtre qui est que c'est du spectacle vivant. Mais cependant, c'est quelque chose qui, dans les comédies musicales anglophones, existe moins. Pour reparler de Wicked, encore une fois depuis le début de cette émission, depuis que ça a ouvert en 2003, c'est la même mise en scène, sans changement. Et comme on l'a déjà dit, même dans les productions internationales, à Londres ou bien partout ailleurs, c'est la même chose. Cependant, avoir les mises en scène qui changent, et ce, même après des années, comme avec... Parfois, les mises en scène changent, comme par exemple Les Misérables, qui, en dépit d'avoir été d'abord une pièce française, puis un succès avec une version anglophone, a eu en 2010 une toute nouvelle mise en scène, 25 ans après la première à Londres et 30 ans après la première à Paris. Mise en scène qui est d'ailleurs en grande partie reprise dans la version française actuellement jouée au Théâtre du Châtelet, que j'ai vu pas plus tard que hier soir. Enfin, quand une comédie musicale est remise en scène, surtout après un long moment sans qu'elle ait été jouée, se pose toujours la question de « faut-il faire des modifications ?» À cette question, un cas qui, je trouve, est intéressant, c'est celui de Sunset Boulevard, une comédie musicale qui date de 1993 par quelqu'un que Élise, tu adores, qui s'appelle Andrew Lloyd Webber.
Toujours lui.
Qui est adapté du film homonyme de 1950. Et là où la production originale de Sunset Boulevard, c'était surtout reconnu pour être un truc avec des décors énormes et justement un truc qui est littéralement de tabasse, et bien la version de 2023 qui s'est jouée à Londres et qui se joue actuellement à New York a décidé de faire tout l'inverse. Avec quelque chose de très minimaliste, pas de décor, toutes les personnes sur scène sont habillées en noir, très peu de lumière. Le parti pris est qu'il y a des caméras sur scène qui filment les acteurs en gros plan, image qui est diffusée en direct sur un écran géant dans la salle, qui a du sens dans l'histoire, mais ça parle du cinéma. Mais en termes de divertissement, Je ne me suis jamais autant ennuyé au théâtre. Et pourtant, j'ai vu tous les spectacles de fin d'année de mes frères à leur kermesse. Bref, personnellement, je trouve que c'est super intéressant, même si on n'aime pas trop, de laisser plusieurs versions d'une même comédie musicale exister. Parfois même, pourquoi pas, coexister, parce que même si c'est le même texte, ça permet de faire vivre, découvrir à un nouveau public les trucs anciens. Et c'est une question que j'aime à vous poser, parce qu'il y a plusieurs manières de conserver le spectacle vivant. Le jouer pour toujours, sans interruption. Le filmer, raconter à ses petits-enfants. Pour vous, c'est quoi la meilleure manière de conserver une comédie musicale ?
La jouer ?
Ouais, c'est ça.
Ouais, la jouer.
Après, ouais, c'est à voir. Bah, on revient sur la question de comment ça s'adapte. Ça dépend. Par exemple, moi, je pense à Chicago, qui, en fait, c'est une comédie musicale hyper réglementée. Si tu la montes en France, il y a les Américains qui vont venir vérifier. Il y a les étudiants de Bob Fosse, qui est le chorégraphe original, qui vont venir et qui vont vérifier que tu fais tout bien. Mm. Et en même temps, voilà, on a un goût du Chicago originel, mais avoir des choses qui changent aussi, bah, des fois, c'est pas mal. Je sais pas, en tout cas pour moi, ouais, c'est vraiment le jouer, quoi. Oui. C'est peu importe comment.
C'est le principe de l'art vivant, en fait. Si on fait des captations à ne plus savoir qu'en faire, on retombe sur du cinéma, au final, et plus vraiment sur de la comédie musicale.
Et même, on peut parler de la captation d'Hamilton, qui est considérée comme un film.
Exactement.
Bah, ça l'est. Parce que maintenant, en fait, si tu vas voir Hamilton, bah, en fait, ça sera pas pareil, parce que déjà, ça sera pas Lin-Manuel Miranda qui viendra chanter, et tout le monde sera différent.
Yeah.
Et chaque acteur différent, même si c'est le même texte et la même mise en scène, chaque acteur différent, il met des choses différentes aussi. Donc en fait, même il n'y a pas vraiment de vraie version.
Oui.
Même si c'est le même texte, il faut juste jouer, quoi. Il faut juste espérer que ta comédie musicale prospère sur les planches, je pense.
Juste jouer, ce sera la conclusion de cette partie. Merci. Bah, j'ai dit merci à moi.
Bravo. Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et pour terminer cette émission, c'est cette fois-ci à Ange, je ne me trompe pas une deuxième fois.
Tu ne te trompes pas.
Comment se tromper ?
Oh, arrêtez. Alors, j'ai parlé d'art tout à l'heure, très grossièrement certes, mais j'en ai parlé. Je vous ai également fait part de mon agacement par rapport au manque de renouvellement global dans le monde de la comédie musicale. Vous savez quoi ? Je vais aller encore plus loin. Je suis agacée par le carcan de médiocrité que l'on s'impose de nos jours, comme si on avait l'interdiction de faire mieux que juste « ok ». Allons au bout de nos idées. Selon vous, comment est-ce que l'on se renouvelle ? Je vous pose la question, hein. Vous pouvez répondre, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse.
Je dirais, moi, personnellement, ce qui vient en premier, c'est du sang neuf, des nouvelles personnes qui viennent ajouter leur pierre à l'édifice.
Mm-hmm. Ouais, complètement, surtout des gens qui viennent apporter un regard nouveau sur les textes et les mises en scène.
Ouais, c'est pas mal. Moi, je dirais que on se renouvelle en essayant des choses, en allant dans des directions que personne ne prend. Vous savez, dans le domaine de la mode, il y a un peu ce truc de créer du moche. C'est dit grossièrement comme ça, hein. Mais il y a une tendance qui existe. Et vous allez à l'inverse de cette tendance, à l'opposé polaire. En fait, on casse les codes. Et c'est comme ça qu'on redistribue, à mon sens, les cartes de la créativité. Essayons d'analyser un petit peu l'historique de la comédie musicale, d'un point de vue un peu plus musical que comédie. Je vous préviens, je vais résumer. Prêt ?
Prêt.
Musique maestro. C'est un art qui se forme peu à peu dans les années 1920 avec des spectacles tels que Nono Nanette ou Lady Be Good, dont vous entendez actuellement le morceau éponyme interprété par Ella Fitzgerald pour l'occasion. Le maître du moment, c'est Gershwin, compositeur inspiré par le jazz et les mouvements musicaux post-romantiques. Et non, je ne vais pas vous les citer. Bon, si, le symbolisme, l'impressionnisme, le néoclassicisme, bref, ces trucs-là.
D'accord, Ange.
On va rester sur cette recette pendant plus de 10 ans. Puis, à la mort de Gershwin en 1937, d'autres compositeurs tels que Rodgers, Hammerstein, Porter, Berlin vont reprendre cette recette à leur sauce. Le temps passe, les styles musicaux évoluent et la comédie musicale aussi. Mais pour le moment, on est sur des sonorités encore très jazz, des compositions très orchestrées et ça ne va pas s'arrêter parce que... 1957, West Side Story, comme Gauthier en a parlé précédemment. Bernstein aux commandes, on a encore du jazz dans la musique, mais on sent qu'il y a autre chose. Tout devient plus grand, comme si c'était de la musique de film. Oh ! Le film sort 4 ans plus tard ! Tout a été anticipé !
Quoi ?
On commence à avoir une rupture musicale, mais il faudra encore attendre 10 longues années pour changer radicalement de style. Oui, il faudra attendre 1967 pour avoir un vrai renouvellement brutal et direct en termes de musique. Et ça va se faire avec... Hair. Ça y est, on y est.
On quitte la musique savante et on part sur du rock, du reggae, de la funk, des sons actuels. Ne vous méprenez pas, hein, j'adore le jazz, j'agace mon entourage à parler jazz, mais ça fait du bien de changer d'air par rapport à la comédie musicale qui s'appelle Hair. Allez.
J'ai adoré.
Mine de rien, Hair marque un vrai tournant parce que d'un coup, la musique de comédie musicale devient populaire. Et ça va avec le propos du spectacle qui se veut actuel, engagé contre la guerre au Vietnam. Ça parle du monde réel, ça parle aux vraies personnes de la vraie vie et ce n'est pas produit par les grandes Broadway. Et ça va cartonner. Hair va jouer à guichet fermé pendant 4 ans non-stop. Casser les codes, encore une fois. Sachez au passage que je ne l'ai pas vu, mais qu'il y a également une adaptation française qui a décidé de remplacer l'antagonisme de la guerre par celui de l'épidémie du sida. Ça peut valoir le détour, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus. On avance encore. Et... oh, les années 70. Quelle surprise. Accrochez-vous bien, il va se passer quelque chose de spécial. Vous êtes prêts ? Je vais dire du bien de Andrew Lloyd Webber.
C'est impossible, je quitte la pièce.
Oui, messieurs, dames, je vais dire du bien de Andrew Lloyd Webber. On aime ou on n'aime pas, c'est une chose. Et vous savez où je me place. Mais il y a quelque chose que l'on ne peut pas nier. C'est que ce cher Sir Andrew Lloyd Webber a énormément contribué à la démocratisation des chansons de comédie musicale. Et il en a inspiré plus d'un là-dedans. Écrire une chanson comme un son qui pourrait passer à la radio et pas comme un simple élément narratif, c'est... brillant, brillant, brillant. Oui, voilà, je l'ai dit, c'est une excellente idée. Une chanson qui raconte quelque chose, mais qui peut également se prendre indépendamment. Ouais, c'est brillant. Et c'est cette recette qui va être reprise dans la comédie musicale traditionnelle aujourd'hui, même en 2024. Et tout ça, bah, c'est un peu grâce à Andrew Lloyd Webber. Mais on peut se renouveler de plein de manières différentes. On a de très belles choses qui se créent en comédie musicale de nos jours. Vous savez ce qui cartonne depuis maintenant 6 ans à Broadway et à Londres ? Ça commence par un H. Et je ne parle pas de Hamilton, n'est-ce pas Gauthier, je te sentais prêt à démarrer, hein. Mais bien de Hadestown. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce spectacle, c'est OK. Mais faites-moi le plaisir d'aller écouter l'album tout de suite après la fin de l'émission.
La chance que vous avez, mine de rien.
C'est vrai, c'est une vraie chance. Par pitié, allez écouter l'album, il est trop bien. Hadestown, c'est une réécriture du mythe de Orphée et Eurydice, mais aussi de Hadès et Perséphone. Orphée est un poète étourdi, Eurydice est une âme perdue. Perséphone est la déesse du printemps, désabusée par le cycle des saisons qui se transforme sous ses yeux. Et Hadès est le dieu des enfers, qui force ses sujets à construire un mur. Pour quoi faire ? Pour rester libre, selon ses dires. Pour se protéger des ennemis. Le spectacle est sorti officiellement en 2018. Je pense que vous aurez déjà compris qu'il y a, comment dire, une petite référence à un événement politique américain assez particulier là-dedans. Hadestown a bousculé les codes et Anaïs Mitchell, compositrice, parolière et librettiste, a montré qu'on pouvait encore aller chercher de nouvelles sonorités, de nouvelles harmonies, des choses qui ne s'étaient jamais faites en comédie musicale, tout en racontant une histoire simple, avec délicatesse et subtilité. Bon, je le dis comme si c'était simple de créer, alors qu'elle a travaillé dessus pendant plus de 10 ans. Mais le pari est réussi. Casser les codes, c'est à mes yeux obligatoire pour marquer son temps. On peut faire de belles choses dans l'air du temps, en suivant son courant, sans pour autant chercher à se renouveler. Mais c'est en essayant de nouvelles choses et en suivant ses idées et en repoussant son propre cadre que l'on arrive à ouvrir de nouvelles portes. Pour corroborer, je pense que je vais me permettre une petite phrase inspirante trouvée sur Twitter. Essayons de tous les choquer.
Ok, Coluche phrase. Merci beaucoup, Ange.
Avec plaisir.
Pourquoi à chaque fois que tu fais des chroniques comme ça, des conclusions comme ça, j'ai une larme à l'œil, c'est quand même fou.
Elle est trop forte. Elle est trop forte.
Merci, Ange. Quant à nous, on va conclure cette émission de Slime, cette troisième émission de Slime sur Radio Campus Paris. On vous remercie d'être resté jusqu'ici. Vous pourrez nous retrouver à la Stage Door où on pourra faire quelques photos et peut-être signer votre baladeur MP3. Merci beaucoup au Lido de Paris pour nous avoir offert des places pour Elodoli. Elodoli, ça se joue encore jusqu'au 2 février.
Oui, d'ailleurs, sur Elodoli, il y a une offre étudiante en ce moment. Si vous nous écoutez et que vous êtes étudiant, si vous allez à partir de 18h30 au Lido 2, je ne sais pas s'il y a des jours spécifiques, je ne crois pas, vous pouvez avoir des places à 20€. Vous ne savez pas où vous serez placé, ça dépendra de ce qui restera, mais 20€, franchement, pour une place au Lido,
oui,
c'est rentable.
C'est une très belle salle et vous aurez quasiment toujours de la visibilité, ne vous en faites pas.
C'est vrai.
Et ben merci pour cette information. Et parce qu'il n'y a pas que du théâtre dans la vie non plus, une sortie cinéma récente de comédie musicale, hormis Wicked, c'est Les Reines du Drame, réalisé par Alexis Langlois, film français qui était vraiment très cool, qui est sorti la semaine dernière. Ça raconte l'histoire de deux filles, deux chanteuses qui tombent amoureuses l'une de l'autre dans les années 2000 et dont le succès finit par les séparer. J'ai trouvé ça super bien, c'était très coloré, c'était très nostalgique des années 2000 et c'est très marrant aussi, et surtout c'est peut-être le film le plus queer qu'il m'ait été donné de voir. Et franchement c'est super, c'est un super film que je vous conseille, c'est toujours en salle. On vous renvoie vers nos collègues du Lobby sur Radio Campus Paris qui ont interviewé la réalisatrice. Leur entretien est disponible en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Et Slime, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org, mais également sur toutes les applications de podcast, ainsi que sur Instagram, @slime-rcp. Merci Ange.
Merci Gauthier.
Merci Élise.
Merci.
Et nous, on se retrouvera le vendredi 31 janvier à 19h pour la prochaine émission de Slime sur Radio Campus Paris. Restez à l'écoute de l'antenne parce qu'à 20h, c'est la première de Sine Qua Non. Et en attendant, vous pouvez danser et chanter, même sur un balai, si bien sûr le vent ne vous étouffe pas trop. Salut!